Un m'a demandé, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Il commence à se désintéresser parce que qu'est-ce qu'on lui répond tant à la maison que chez les profs? Mais avec une intelligence pareille, il suffirait que tu travailles un petit peu, tu te sabotes, tu es fainéant, parce que tu te sabotes, c'est sympa encore, hein, mais d'habitude, tu es fainéant et tu daignes travailler que quand ça t'intéresse. Mais c'est pas ça. Il faut aller voir. C'est quoi ces fondamentaux que lui n'a pas eu l'occasion d'acquérir parce qu'il n'en a pas eu besoin avant.
Et donc, on fait quoi en tant que parent quand on est face à ça? Quand on est soi-même confronté à cette problématique et qu'on ne trouve pas la solution?
Alors, la plupart du temps, il y a une question magique chez l'HP. La question magique, c'est quand quelque chose ne va pas chez l'HP, quelle est cette chose si simple, si évidente, si basique, qu'elle en est implicite, puisqu'elle va sans dire que lui, il a complètement zappé, ou il remet en cause, ou il n'est même pas au courant que ça existe. Je vais vous donner un exemple. Je prends mon fils, par exemple. J'aime bien prendre cet exemple-là. Voilà. Un jour, il
Il a
va l'entendre.
Il a demandé d'arrêter. Hein.
Ouais,
on n'a pas dit son nom.
Non,
oui,
c'est vrai. Donc, comme tous les HP, comme moi aussi, tout petit, quand il entend une erreur de raisonnement, il corrige et on lui dit « Oh, c'est bien, tu es intelligent. » Puis un jour, il fait la même chose et on lui tombe dessus en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette insolence ?» Par exemple, je lui dis « Est-ce que tu veux bien prendre une douche? Ça fait 2 jours que tu n'as pas pris de douche. » Et là, il me répond « Non, ça fait pas 2 jours, ça en fait 3. » Là, à ce moment-là, j'ai beau l'aimer, j'ai beau savoir comment il fonctionne, comment je fonctionne, j'ai envie de le prendre par les pieds, de le tourner loin, loin, loin et de le lancer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que même s'il y a une erreur dans mon message, ce n'est pas ça. Le
C'est pas
sens du
l'info
message, c'est pas
importante.
l'info importante.
Oui.
Et donc, ça passe pour de l'insolence. Et c'est vécu comme de l'insolence.
Oui, mais alors, quand on est parent d'un élève qui rencontre à un moment en troisième des difficultés et qu'on lui dit, mais travaille, fainéant, etc., quel est le message que l'on doit avoir en tant que parent? Qu'est-ce qu'on doit dire pour comprendre et pour que ce soit compris? Et pour que ça puisse évoluer, surtout?
Je crois que l'une des premières clés, c'est d'éviter de rentrer dans la colère et le conflit. C'est essayer de comprendre. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on décrit aussi dans le livre et ce qu'on fait à l'Académie des HP, c'est assez simple finalement. C'est de savoir comment ça marche quand ça marche, pourquoi ça marche pas quand ça marche pas et comment faire pour que ça marche quand ça marche pas. Il suffit de suivre un peu cette. On parlait tout à l'heure de pensée linéaire. Tentons de suivre aussi, de voir cet aspect-là et de discuter aussi tranquillement avec son enfant, de voir aussi, aussi avec les enseignants. On parlait des enseignants tout à l'heure, c'est très difficile, effectivement, quand on a parfois aussi des parents parce qu'on estime que son fils est un génie incompris, que c'est toujours la faute des professeurs, etc. Bon, prenons du recul. Regardons ce qui se passe. La femme de Patrick, quand il n'arrivait pas à couper les carottes, ils sont pas pour autant séparés. Bon, ils ont essayé de trouver un certain nombre de choses, mais
pas loin. Hein.
Pas loin. Mais voilà. Mais il y a toujours une solution à tout. Donc déjà, d'éviter de d'étiqueter, d'éviter de vilipender, d'éviter de critiquer, juste de savoir. Bon, regardons ce qui se passe.
Vous parlez des neuros, justement. Il faut peut-être aussi insister sur le fait qu'à l'adolescence, il y a un recablage total neurologique chez les adolescents. Donc, c'est pas pour rien qu'un adolescent à 13 ans, il savait faire des choses avant, et puis que du jour au lendemain, il n'y arrive plus. Ou alors, vous devez lui répéter, ou lui remettre 3 couches derrière pour qu'il les refasse. Il y a un recablage. Donc, si le mode automatique n'a pas été suffisamment nourri, justement, par de la méthodologie d'apprentissage, ce qui sauve quand même pas mal d'ados à ce moment-là, au moment du décablage, eh bien, il y a une difficulté supplémentaire, donc ça ne sert pas non plus à grand-chose de buter contre un mur en disant tu dois le faire.
C'est exactement ce qu'on dit, voilà. Mais ne serait-ce que de poser la question, déjà, c'est une première piste de réponse. Ne serait-ce que de dire, au lieu de, encore une fois, de critiquer, de vilipender. Alors ça me fait sourire, pourquoi? Parce que mes parents, j'ai eu mes parents ce week-end, et ils ont eu la bonne idée de me rendre tous mes bulletins scolaires.
Alors,
j'étais dans le système français, donc du CP à la terminale. Et puis alors j'ai regardé rapidement ce qu'il y avait comme évolution. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il aurait fallu qu'on regarde un petit peu plus pourquoi ça marchait pas quand ça marchait pas. Mais c'était ce que disait aussi Patrick, c'est qu'il y a une nouvelle méthodologie. Donc plutôt que de dire, c'est Einstein qui dit dans la définition de la folie, si vous voulez avoir un résultat différent, ne faites pas toujours la même chose, parce que sinon on va toujours se buter sur la même contrainte. Donc c'est à peu près la même, c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir ce recul et puis de poser la problématique pour avancer.
En tout cas, il y a pas mal de solidarité hein, sur le handicapé du découpage de légumes.
Oui.
Hein, on a quelques messages, hein, notamment celui de Marie, qu'on reprendra aussi, d'ailleurs, juste après les informations de 11h, puisqu'on va y arriver. Vous pouvez toujours nous laisser vos messages et vos témoignages par SMS au 6030.
J'ai la tête d'entendre des parents dire « Mon enfant est un HP, mais il ne veut pas travailler. »
Alors ça, je peux vraiment l'entendre. Dès que vous entendez dire que quelqu'un est HP, que ce soit vous-même ou votre enfant, si c'est une cause d'excuse pour subir quoi que ce soit ou faire subir quoi que ce soit, au secours, faut arrêter tout de suite. Voilà. Si l'enfant est HP, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions simples pour l'aider. Simples, mais pas connues. Et simples, mais brouillées par les incompréhensions, les croyances qu'on a. Faut arrêter de croire que cet enfant est insolent ou je m'en foutiste ou fainéant ou que sais-je. Voir qu'il y a un réel problème fondamental de méthodologie. Et ça, honnêtement, parce que on ne coach pas que les HP à l'Académie des HP, on voit que dans toutes les tranches d'âge, il y a vraiment des lacunes à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui manque. Des principes de base de méthodologie. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on met en avant alors ? Là aussi, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme principe de méthodologie ?
Ben déjà que pour étudier, il faut déjà commencer par lire ou écouter son cours avant de faire de la restitution. Parce que j'en ai beaucoup qui. J'ai un exemple en tête d'un élève de 15 ans. Je lui demande de montrer comment il étudie. Il devait étudier une liste de vocabulaire en anglais ou néerlandais. Et puis, je vois qu'il prend sa feuille avec ses deux colonnes. Il cache une colonne et il commence à lire pendant 5 minutes. Et puis après, il cache l'autre colonne. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, j'étudie. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Vous prenez un mot et vous êtes en train de demander à votre cerveau, c'est quoi encore cette définition, cette traduction-là ? Et alors, votre cerveau va faire plein de choses. Il va aller chercher, il va peut-être dire une erreur. Il va s'embrouiller. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lire la première colonne, la deuxième, puis après vous le cachez, et dans un deuxième temps, vous vous entraînez à la restitution. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne font que de l'assimilation, ce qu'on appelle du « in » chez nous, et pas de « out ». Donc ils sont très forts pour emmagasiner l'info, mais quand ils arrivent à une interro, ils sont complètement calés. Or, vous savez que vous avez vraiment bien fait votre « in », quand vous êtes entraîné et que le out fonctionne. On dit souvent que le meilleur moyen d'acquérir une connaissance, c'est de la partager. Et donc, ne fût-ce que ça. Voilà. Respectez l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Si vous saviez le pourcentage d'enfants HP, non HP, qui cafouillent complètement à ce niveau-là, c'est
important de noter HP et non HP.
Oui, oui.
Parce que finalement, la méthodologie pour tous les enfants, et on revient à ce que vous disiez, Véronique, tout à l'heure, avec ce décablage ou ce recablage à l'adolescence, c'est vrai qu'on peut être tous confrontés en tant que parents à un môme qui ne sait pas étudier, qui n'a jamais appris, qui n'a pas de méthodologie. Et cette méthodologie, elle n'est pas apprise non plus à l'école.
Non, absolument pas. C'est vraiment une lacune. Ce qu'on appelle les soft skills sont déjà pas apprises, donc la gestion des émotions, etc. Mais même la méthodologie, ça devrait être une hard skill, je suis désolé. Vous allez dans un établissement, 8 heures par jour, où dont le but est de vous apprendre à faire des choses et on vous explique pas comment on fait en dehors. Ça c'est vraiment à mon sens une lacune. En tout cas, je parle pas dans le chef des pouvoirs organisateurs ou des enseignants, mais on voit bien que dans les cas concrets, il y a un réel manque de ça. Et comme il y a un manque de ça, eh ben, ça génère de l'énervement à la maison, de l'incertitude de soi par rapport à soi, ce qui n'améliore pas le schmilblick, et c'est une spirale vraiment destructrice, en fait, finalement. Et ça peut amener au décrochage scolaire. Hier, j'avais un enfant qui... un enfant, il a 15 ans. S'il m'entend dire enfant, j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas. Je le salue. Qui se demandait ce qu'il voulait faire l'année prochaine. Il hésite à changer de filière. Et passer dans quelque chose de plus manuel. J'ai absolument rien contre les choses manuelles, c'est même plutôt chouette, mais ça dépend pourquoi il le fait. Et en parlant un peu avec lui, je me rends compte que c'est parce qu'il est persuadé qu'il n'a aucune motivation, il a du mal à se mettre à travailler, quand il travaille, ça dure quelques minutes et puis il décroche, et puis il y a des problèmes relationnels avec des profs, du coup, au revoir l'école, moi je vais bosser avec du bois, ce sera plus sympa. Quand on lui dit... qu'il y a moyen de trouver des solutions simples à tous ces problèmes-là, en imaginant qu'il a déjà cette baguette magique et que c'est réglé, qu'est-ce qu'il veut faire ? Eh ben là, la question se pose. Donc c'est vraiment ça, notre premier boulot, c'est de Nettoyez les croyances limitantes au Karcher. Tout ce que vous croyez savoir sur votre fils, votre enfant, et qu'il soit HP ou pas HP, hein. Chez nous, on
s'en fout. Ou ce que vous croyez savoir sur vos élèves, parce que... Mais ça, heureusement, il y a quand même une sacrée ouverture chez pas mal de profs aujourd'hui se dire, j'ai appris une méthodologie d'enseignement, mais... C'est pas pour autant que je vais l'appliquer tel quel chez tous les élèves. Et un regard parfois, je dis pas, je généralise pas, je suis pas béni oui non plus, mais il y a quand même une ouverture aujourd'hui chez beaucoup plus de profs qu'avant sur l'idée que ma méthodologie, celle que j'ai apprise dans mon cursus, n'est pas forcément celle qui va fonctionner, et donc je m'enrichis d'un tas d'autres choses.
Alors s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que si le corps enseignant est éminemment impliqué, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ils vivent dans des conditions terribles, que ce soit au niveau réglementaire, coronavirus, etc. Mais eux, leur boulot, et c'est ce qui leur tient à cœur, c'est que leur classe aille bien, et pour tout le monde. Il y a une part de gens qui sont désabusés, parce que quand ça fait 5 ans d'affilée que vous avez un enfant turbulent et que les parents vous tombent dessus en disant que cet enfant est un génie et que vous n'êtes pas à même de susciter sa curiosité, vous en avez un peu ras-le-bol. Ça je peux comprendre, mais l'énorme majorité a envie de bien faire. Mais je les invite vraiment à nous contacter. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien une institution qui est lente à évoluer, c'est l'enseignement. Alors encore, je viens de la justice, qui est pas mal comme mammouth, pas mal comme mammouth non plus. Les techniques d'enseignement qu'on a maintenant, l'horaire, l'organisation, ça date d'il y a plus de 100 ans. Or, s'il y a bien une chose qu'il faut commencer à comprendre, c'est que le HP, le drill, ça ne marche pas. Alors que au niveau apprentissage, tout est fait comme ça. Vous allez apprendre des choses, on va vous faire faire des petites tâches simples, les répéter, pour que ce soit engrammé dans l'automatique, et comme ça, vous saurez les faire. Chez le HP, ça marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que la première fois, il y arrive avec sa mémoire de travail, ça engramme pas besoin, mais à chaque fois, il réinvente la roue. Et si vous le forcez à faire quelque chose qu'il a déjà compris et dont il ne perçoit pas l'utilité, et qu'en plus on est un peu condescendant en disant « ça y est, t'y arrives », ça encore un petit clin d'œil à mon fils, il va décrocher, il va dire que ça en vaut pas la peine. Et juste pour terminer, oui, parce que on se plaint, je disais encore hier à un enfant, mais tu sais, son prof d'histoire, il l'a dans le nez et le cours l'intéresse pas du tout. J'ai quand même été obligé de lui rappeler que le but de ce prof n'est pas de le divertir. Et que la salle de classe n'est pas une grosse télé dont il ne manquerait plus qu'une télécommande pour que quand même on s'amuse un peu. C'est pas ça l'objectif. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quelques heures après, je recevais un prof d'histoire qui lui me disait « Ouais, moi, mon boulot, faut que je change, j'en ai fait le tour, ça m'amuse plus. » Je trouve ça quand même assez intéressant. Voilà.
Et je plaide pour que l'on foute la paix aux enfants. Toute mon enfance, mes profs écrivaient dans mon bulletin un peu mieux faire, mais chaque année, je montais de classe, haro aux parents qui transposent leur soif de réussite dans leurs enfants. C'est un message d'Olivier. Et je voudrais qu'on revienne sur un des chapitres que vous proposez dans ce bouquin qui a l'air tout simple. J'ai tendance à couper la parole aux autres quand je sais déjà ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils veulent dire. C'est très, très, très énervant.
C'est énervant, hein.
Est-ce qu'on vous a coupé la parole, pas encore?
Non. Mais justement, c'est... Alors, comment apprendre, finalement, à peut-être attendre avant de couper la parole? Et comment apprendre, quand on est face à quelqu'un qui coupe la parole, parce qu'il sait déjà ce que je veux dire, à se poser et ne pas s'énerver?
Alors, pour le premier, c'est simple. Il faut se rappeler quel est l'objectif, en fait, de la discussion. Pourquoi ? Parce que quand je vous coupe la parole, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir compris, c'est comme l'hypersensibilité. J'ai entendu le début de votre réponse, je fais des liens, je sais que vous allez aller là. Du coup, j'ai réagi directement comme si ça avait déjà été prononcé. C'est ça qui se passe, hein ? Comme mon fils dans les gorges du Verdon. Et donc, du coup, j'ai envie de répondre. Ça, c'est si mon objectif, c'est d'avoir raison. Mais si je me rappelle que mon objectif, c'est d'avoir une discussion, c'est d'avoir la communication, c'est d'avoir un échange, alors, quel que soit ce que j'ai à dire, au minimum, vous laissez finir, c'est quand même pas mal pour favoriser la relation et la communication. Et ça, il faut se le rappeler. C'est aussi simple que ça. Je dis ça, mais vous savez que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois pendant notre interview ici, où... Ah, je perçois le début de la question et je suis déjà prêt, je suis dans les starting blocks. J'ai envie de répondre et je me réfrène
Ce besoin de ping-pong, également peut-être dans la discussion, d'où le fait que bien certaines personnes se retrouvent dans ce ping-pong, dans la vitesse, la rapidité de la discussion et de l'échange.
Mais encore une fois, ce que dit Patrick est pour moi très juste, c'est quel est l'objectif de cette relation et de cette discussion. Alors j'ai beaucoup progressé, moi depuis tout à l'heure, je ne coupe pas la parole, je me mesure sur ça, je dis bon bah finalement notre méthode elle fonctionne quand même pas mal, il y a quelques années j'aurais peut-être fait différemment, mais voilà, mais quel est l'objectif? Et puis on peut toujours apprendre quelque chose finalement dans les derniers mots.
Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment est-ce qu'on fait pour réagir face à quelqu'un qui coupe la parole? Eh bien, diminuer les croyances limitantes, les croyances négatives, les incompréhensions. Il ne fait pas ça pour vous embêter. Il ne fait pas ça parce qu'il vous écoute pas. Au contraire, il vous écoute tellement qu'il réagit de façon émotionnelle tellement importante qu'il n'arrive pas à se réfréner. Donc il est à fond dedans. Il a juste loupé une info si évidente, si basique, qu'elle va sans dire, qui est... Dans une discussion, on laisse l'autre finir. Et comment on fait? Il ne s'agit pas de réfréner ses chevaux en disant je vais le faire, go, comme on lâcherait un labrador dans un parc. On peut faire ça, c'est une piste. Une autre piste, c'est si vous pensez vraiment avoir déjà compris ce que l'autre va dire, ben pendant la fin de sa phrase, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous allez dire, qui soit un peu moins du tac au tac et encore plus construit. Ou, que sais-je, mais choisir un objectif qui soit... en adéquation avec la situation, et y compris le contexte. Et pour la personne d'en face, non, c'est pas parce qu'il n'écoute pas, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'il se croit plus malin, c'est juste qu'il est à fond dedans.
Et parfois c'est difficile pour les journalistes, là ils veulent enchaîner.
Ouais, je vois. On veut conclure parce qu'hélas on arrive déjà à la fin, au terme de ce dossier du jour dans la tête des HP. Patrick Gros et Jérémy Michel, vous êtes donc les auteurs de ce livre, de Haut Potentiel à Hyper Préfrontal. C'est publié à la Renaissance du Livre. Merci